France Culture.
Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Nuit des éditions de Minuit. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin pour une nuit consacrée aux éditions de Minuit. Depuis le 9 octobre et jusqu'au 9 décembre se tient à la BNF une exposition intitulée « Les combats de minuit » dans la bibliothèque de Jérôme et Annette Lindon. Et nous avons pensé que l'occasion était là toute trouvée de consacrer aujourd'hui notre programme à la glorieuse et passionnante histoire des éditions de Minuit. Que la maison fondée sous l'occupation dans un geste de résistance soit toujours là, et bien là, en 2018, pourrait apparaître comme un miracle. Avant sa disparition en 2001, celui qui l'aura incarné et dirigé pendant plus d'un demi-siècle s'étonnait lui-même qu'elle ait réussi à traverser le temps. Durant cette nuit, nous verrons comment l'amour de la littérature, le talent d'éditeur, le sens du combat juste, l'indépendance et la liberté d'esprit d'un homme, Jérôme Lindon, ont rendu le miracle possible. À sa mort, c'est à Irène Lindon, sa fille, qui est revenue la responsabilité de poursuivre l'aventure dans le prolongement naturel du rôle qui était déjà le sien avant la disparition de son père. L'aventure Minuit se poursuit donc dans la fidélité à quelques principes et valeurs simples et solides qui lui ont permis de tenir le cap depuis 70 ans. Ce qu'a été la maison de Minuit depuis l'après-guerre, nous tenterons de le cerner à l'écoute du programme d'archives que nous avons composé avec les voix de Vercors, Butor, Rob Grier, Claude Simon et les mots de Beckett. Tout au long de cette nuit, Jérôme Lindon nous accompagnera avec la rediffusion d'une série d'entretiens d'Avoix Nues qu'il avait accordé à France Culture en 1994. Il y parlait de son histoire familiale, de sa lutte armée contre le nazisme, de son arrivée aux éditions de Minuit, de sa rencontre avec l'œuvre de Beckett, du nouveau roman et de son engagement pendant la guerre d'Algérie. C'est donc par sa voix que nous entendrons l'idée qu'il se faisait de la littérature, de son métier d'éditeur et du sens de ses combats. Pour guider nos pas dans l'histoire des éditions de Minuit, j'ai demandé le concours d'Anne Renoux, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France et commissaire de l'exposition « Les combats de Minuit », ainsi que celui d'Anne Simonin, chercheur au CNRS, auteur en 1994, d'un livre intitulé « Les éditions de Minuit 1942-1955, le devoir d'insoumission ». Anne Renoux, Anne Simonin, bonsoir.
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 Se tient depuis le 9 octobre à la BNF l'exposition « Les combats de minuit » dans la bibliothèque de Jérôme et Annette Lindon, dont vous êtes un des commissaires, Anne Renoux. Pourquoi une exposition consacrée aux éditions de minuit et que peut-on y voir?
En 2015, les enfants d'Annette et Jérôme Lindon, Irène, André et Mathieu, ont fait ce don exceptionnel à la Bibliothèque nationale de France de la bibliothèque personnelle de leurs parents, qui se trouvait dans leur appartement parisien. Et non pas au siège des éditions de Minuit. C'est une bibliothèque exceptionnelle puisque elle est constituée d'un peu plus de 900 volumes qui sont pour l'essentiel des éditions originales sur grand papier et qui sont pour l'essentiel dédicacés par les auteurs à l'éditeur et parfois aussi à son épouse. Et nous présentons ici les plus beaux exemplaires dédicacés accompagné de nombreuses photos pour illustrer les combats que Jérôme Lindon a menés à la tête des éditions de 1948 à sa mort en 2001. Ce sont des combats à la fois politiques, littéraires, intellectuels. Tous ces documents mettent en valeur à la fois son courage, son audace et son exigence.
Et quel a été le rôle d'Annette Lindon aux côtés de Jérôme Lindon aux éditions de Minuit? Anne Renoux.
Je crois qu'Annette Lindon a accompagné son mari toute sa vie. Elle n'allait pas au siège des éditions, mais en revanche, elle lisait les manuscrits que son mari rapportait chez lui. Il lui demandait son avis et
il
son avis comptait.
Anne Simonin.
Et je crois qu'il y a un auteur qui doit beaucoup à Annette Lindon, c'est Robert Pinget. Parce qu'elle avait une vraie passion pour Robert Pinget et qu'elle l'a toujours défendu, même quand Robert Pinget n'avait pas la visibilité qu'il a fini par conquérir.
Faire cette exposition cette année, en 2018, est-ce une manière de marquer les 70 ans de l'ère Lindon aux éditions de Minuit, les 70 ans de son arrivée à leur tête en 48, Anne Renouf?
Oui, c'était une occasion et nous voyons à travers cette exposition toute l'actualité des combats menés par les éditions de Minuit et par Jérôme Lindon, combat contre la censure, combat pour la vérité, pour la justice, mais aussi combat pour une certaine idée de la littérature et de l'édition.
Les éditions de Minuit, Anne Simonin, ont été fondées pendant la guerre, dans les premières années de l'occupation. Peut-être serait-il bon de rappeler pour commencer dans quelles circonstances et par la volonté de qui elles sont nées.
Les éditions de Minuit, c'est une vieille histoire, puisqu'elles naissent en 1941 de la rencontre de deux hommes. L'un est Pierre de Lescure, qui est un écrivain, alors j'ai toujours du mal à le caractériser, qui est quelqu'un qui n'a pas une grande notoriété dans le milieu, mais qui est quand même, qui publie régulièrement, et dont des romans policiers aux éditions Gallimard. Et Pierre de Lescure a comme ami quelqu'un qui s'appelle à l'époque Jean Brulaire, qui deviendra Vercors, qui est un graveur, et ce sont ces deux hommes en lien avec les communistes, parce que Pierre de Lescure, son fils, et François Lescure, qui est un adhérent aux jeunesses communistes, qui vont avoir l'idée de créer une maison d'édition clandestine. Avoir une idée comme celle-là, c'est déjà tout à fait saugrenu dans la France de l'occupation nazie. Parce que
c'est une idée qui arrive très tôt, hein, vous dites, dès l'automne 40.
Ça arrive très tôt par les communistes. C'est-à-dire, ceux qui sont les premiers intéressés à la défense de la culture française, ce sont les communistes. Et qui s'intéressent d'une façon, quand Jérôme Lindon dira « je n'ai jamais été communiste, mais je n'ai jamais été anticommuniste non plus », c'est parce qu'il y a une sorte, je trouve qu'on n'insiste jamais sur cette dimension-là, de pragmatisme chez les communistes. C'est-à-dire que quand ils s'intéressent à la culture, eh bien, ils vont essayer de publier clandestinement des revues. Ce qui pose un vrai problème, et ce sera la pensée libre, des brochures, alors qui sont pas bien imprimées, mais où ils ont les réseaux par le biais des typographes et des imprimeurs, chez lesquels ils sont puissants, c'est l'aristocratie du milieu ouvrier, pour réaliser, à la barbe des Allemands, des publications clandestines. Puisque, dès juillet-août 40, la convention de censure est mise en place par les nazis avec les éditeurs, et donc il y a une surveillance très rapprochée qui est exercée par l'occupant nazi sur l'activité intellectuelle française.
Et donc, Le silence de la mer est la première publication de la première maison d'édition clandestine, Anne Simonin.
Oui, absolument. Le 20 février 42 sort des presses d'un petit imprimeur qui s'appelle Houdeville, et un livre qui a été tiré page à page sur des stocks de papier de luxe. Et ça a une vraie importance parce que une grande partie de ce tirage initial sera perdue, mais c'est un autre imprimeur qui s'appelle Hollard qui donne ce papier de luxe, et on voit sortir cette chose incroyable, un livre qui est d'une extraordinaire qualité typographique. C'est ce qui marque la différence par rapport aux publications communistes, c'est Le silence de la mer. Et là, tout le monde est signé sous le pseudonyme de Vercors, dont Aragon dira « ça a été le secret le mieux gardé de la guerre ». Pour quelle raison ? Parce que personne ne peut imaginer que Jean Brulaire, qui était un graveur de son état, naisse à la littérature en même temps que la maison d'édition clandestine. Et en plus, prenne le pseudonyme de Vercors, qui sera le grand maquis que l'on connaît. Donc il y a une sorte de concentré dans la création d'un capital symbolique qui aurait probablement réjoui Pierre Bourdieu, parce que c'est une sorte de précipité, et tout d'un coup, voilà, Minuit surgit.
Et donc, pendant l'occupation, les éditions de Minuit éditeront 25 ouvrages dans la clandestinité, et le premier en date étant donc Le silence de la mer de Vercors. Quels sont les autres livres, les autres auteurs édités alors par Minuit, et comment s'organiser la fabrication et la diffusion de ces ouvrages ?
Alors, c'est très important votre question, parce que il y a les auteurs qui publient, donc il y aura Le cahier noir, qui est à mon avis le grand titre de la bibliographie de François Mauriac de ces années-là. Il y a les anthologies de poètes de Paul Éluard, avec, dans la deuxième, ce très grand poème de Robert Desnos, qui est Le veilleur du pont au change, qui est un texte absolument magnifique. Il y a d'autres textes qui le sont moins, parce que comme Jean Lescure, qui était le lieutenant de Paul-Éluard et qu'on va retrouver dans l'histoire des éditions...
Qui n'a rien à voir avec Pierre de Lescure. Hein,
qui n'a absolument rien à voir avec... comme Jean ne trouvait pas enfin il n'y avait pas non plus de volonté, tant de volonté que ça, pour publier de façon clandestine, parce que on savait que ça pouvait entraîner des réactions très vives de la part de l'occupant et des risques de déportation. Donc Jean racontait qu'il avait menacé Sartre, qui voulait pas tellement lui donner un texte, de publier un poème de lui qu'il avait retrouvé, qui datait du temps du lycée du Havre, en lui disant ça va finir par arriver. Et ensuite, donc, il y a des poèmes qui ont été écrits par des gens. Et ça a donné des critiques très fortes. Le déshonneur des poètes de Benjamin Perret, en disant qu'est-ce que c'est que cette poésie de pharmacie. Ça, si vous voulez, c'est une critique qu'on ne peut pas retenir de cette façon-là, parce qu'il faut prendre en considération les conditions de production. Un livre, Minuit clandestin, c'est pas simplement un texte, c'est des hommes, des imprimeurs, des diffuseurs, des gens qui ensuite ont répandu le livre dans le milieu parisien et en France, qui ont accepté de prendre un risque majeur, qui, y compris la mort, puisque la déportation pouvait entraîner la mort, pour que cet objet-là vive. Donc pour moi, on ne peut pas se contenter d'une critique formelle des livres, des éditions de Minuit clandestine, c'est tout à fait nigaud. Parce que ça ne permet pas de comprendre qu'il fallait monter une chaîne de production et que cette chaîne de production, seules les éditions de Minuit sont parvenues à la monter à partir de la fin de l'année 41 et à la maintenir intégrale jusqu'en 1944, puisque personne n'a été déporté et n'est mort de l'activité directement liée aux éditions de Minuit.
On peut peut-être s'arrêter sur une personne dont on parle peu, Yvonne Paraf-Desvignes, Anne Simonin.
Oui, alors c'est vrai que l'histoire des éditions de Minuit, c'est une histoire très masculine, surtout à une époque de gender un peu débridée, si vous voulez mon avis, mais enfin bon. Yvonne Paraf-Desvignes, elle va avoir un rôle absolument essentiel, parce que c'est elle qui broche les livres des éditions de Minuit dans sa cuisine. Et comme toujours, dans cette histoire intellectuelle, je pense qu'on ne fait pas suffisamment attention à ces étapes de production du livre. Et si vous voulez, un livre non broché, c'est pas un livre. Voilà. Et donc, Yvonne Paraf-Desvignes va avoir cette importance-là. Elle est très proche de Vercors. Donc, c'est un monde d'interconnaissance qui permet aussi d'éviter les infiltrations et les risques qui vont être ceux des imprimeurs clandestins, parce que à partir de juin 44, les Allemands vont trouver que la plaisanterie a suffisamment duré. Et Karl Epting en particulier va s'intéresser de très près aux imprimeries clandestines. Et là, quand ils vont faire des descentes, ça va tomber et la répression va être très dure sur les imprimeurs. Mais c'est une histoire qu'on connaît extrêmement mal et Marie-Cécile Bouju travaille sur les imprimeurs clandestins. On connaît bien l'histoire des intellectuels pendant la guerre. On ne connaît pas du tout celle des soutiers de la gloire et de ces hommes et de ces femmes qui ont pris le risque de travailler pour que vive la pensée française.
Et quels étaient les liens des éditions de Minuit, de ceux qui y participaient avec les réseaux de résistance et leurs différentes sensibilités politiques ?
Il y a un lien immédiat avec les communistes, c'est-à-dire que notamment chez les typographes, et ça c'est une chose que Minuit va maintenir pendant la guerre et après la guerre. Et le lien se fait essentiellement par Aragon. Il y a ce lien-là qui fonctionne. Et puis, le fait que, je me souviens de Gilbert Grouradnez, à qui j'avais apporté une collection originale des éditions de Minuit, qui était un imprimeur, dont le père a été l'imprimeur de défense de la France, et dont le père est mort en déportation suite au rafle des imprimeries en juin 44. Et Gilbert Grouradnez avait fait des tas des livres en me disant, ça vient d'une imprimerie, ça vient d'une autre imprimerie. Et là, j'étais quand même un peu bluffé. En disant, monsieur, comment est-ce possible? Il me dit, regardez les polices de caractère, regardez l'ancrage, et vous pouvez voir qu'il y a des régularités. Et on voyait qu'il y avait, dans la production originale des éditions de Minuit, des textes qui étaient moins parfaits d'un point de vue typographique que d'autres. Il est clair que c'est parce que ils avaient les éditions de Minuit, à savoir Vercors, puisque Pierre de Lescure va devoir se réfugier au Maquis à partir de 1943 avec sa compagne de l'époque qui est Célia Bertin, qui deviendra écrivain par la suite. Et donc Vercors et Yvonne Desvignes passaient par des contacts communistes. Et comme c'était des imprimeries qui imprimaient surtout de la presse, on voyait que le travail était moins soigné. Mais la grande arche d'alliance avec les intellectuels communistes, elle se noue pendant la guerre et on va la voir ressurgir au moment de la guerre d'Algérie.
On peut peut-être aussi rappeler comment le monde littéraire, ces grandes maisons d'édition et ces grands auteurs, comment ce monde littéraire a traversé ces années d'occupation et quels ont été, durant cette période, les liens des éditions de Minuit avec ce milieu, Anne Simonin.
Ah bah c'est un peu limité, très honnêtement. Alors, il y a un homme absolument clé qui s'appelle Jean Paulhan. Et Jean Paulhan, qui occupe chez Gallimard le bureau en face de celui de Drieux La Rochelle, qui a pris la direction, donc collaborateur notoire, qui a pris la direction de la Nouvelle Revue Française. Et puis Jean Paulhan, qui est la plaque tournante, le véritable directeur littéraire des éditions de Minuit Clandestine, c'est Jean Paulhan. C'est Jean Paulhan parce que tout le monde passera ou a passé dans le bureau de Jean Paulhan, et que c'est lui qui va réorienter des textes, qui va suggérer à Gide de publier un extrait de son journal, qui va proposer à Julien Binda, juif, qui est interdit de publication, de publier aux éditions de Minuit. C'est Paulhan qui convainc Mauriac, sans grande difficulté. Donc il y a tout ce travail-là qui se fait par l'intermédiaire de Jean Paulhan, et puis des contacts qui sont aussi apportés par Éluard, puisque Éluard va...
prendre la tête des éditions.
Voilà, va surtout diriger la poésie. Mmh. Cette poésie engagée qui va en quelque sorte renouer la grande redécouverte littéraire de la résistance, c'est la poésie. C'est-à-dire le moment où Aragon et Éluard vont remettre la poésie après son époque mallarméenne, vont refaire de la poésie un grand art populaire, avec le retour de la rime de l'alexandrin, qui sera considéré par les surréalistes, Benjamin Perret en particulier, comme une trahison de l'avant-garde.
Anne Renoux, comment est traitée dans l'exposition cette période de l'occupation? Quelles sont les pièces que l'on peut voir appartenant à cette période?
Eh bien, paradoxalement, il n'y en a pas, puisque le livre le plus ancien publié par les éditions de Minuit, qui se trouvait dans la bibliothèque d'Annette et Jérôme Lindon en 2015, au moment du don, est le premier livre qui paraît au grand jour, après la Libération, premier livre édité par les éditions de Minuit. Après la Libération, il s'agit du recueil de poèmes de Paul Éluard au rendez-vous allemand. Donc paru à l'été 44 et qui reprend un certain nombre de poèmes publiés clandestinement par Paul Éluard dans différentes revues et aussi dans l'anthologie qu'il avait dirigée aux éditions de Minuit, L'honneur des poètes, en 43.
Et comment expliquer cette absence de la période de l'occupation dans une exposition consacrée aux éditions de Minuit? C'est pas un petit peu surprenant?
L'exposition n'est pas une exposition sur l'histoire des éditions de Minuit, de ses origines à nos jours. C'est vraiment une exposition qui rend hommage à son directeur qui était Jérôme Lindon de 48 à 2001 pour remercier de ce don qui a été fait à la Bibliothèque nationale. Cependant, évidemment, nous présentons quand même Annette et Jérôme Lindon dans une introduction avec des documents qui nous ont été prêtés par leurs enfants et qui évoquent justement la période juste avant la guerre, parce qu'il faut bien avoir conscience que Jérôme Lindon a 15 ans en 40, et nous exposons par exemple un tableau qu'il a réalisé, qui est daté de 39, où il peint sans doute sa petite sœur Hélène à la fenêtre du balcon de son appartement. Et ensuite, nous passons à des photos qui le représentent avec sa femme pendant son voyage de noces, au moment où il va entrer comme stagiaire aux éditions de Minuit.
Anne Simonin.
Et puis peut-être aussi parce que on n'a pas besoin de représenter la résistance. La résistance, c'est un esprit. Et les éditions de Minuit ont toujours considéré qu'elles étaient en dette envers leur passé. Et Jérôme Lindon a une conception du présent qui n'est pas le présentisme de François Hartog. C'est-à-dire ce présent écrasé par le passé. Au contraire, c'est une formidable disponibilité. Et je pense que c'est important presque qu'il y ait ce manque sur la résistance. C'est pas du tout pour nier l'histoire, bien au contraire. Mais c'est pour, en reprenant un titre de 47, c'est pour considérer que la résistance, ça se fait au jour le jour, au quotidien et quasiment tous les jours.
Comment les cartes sont-elles rebattues dans le monde littéraire et de l'édition après l'occupation, Anne Simonin?
Oh ben, elles ne sont pas rebattues du tout. Donc, on a, à part Kalman Levy qui a été arianisé, il y a une remise en ordre qui se fait très rapidement. Et
une
qui
épuration est... aussi.
Oui, alors il y a une épuration qui est... Alors, chez les éditeurs, De Noël s'en sort avec un non-lieu. Bon, il se trouve qu'il est assassiné en décembre 45. On n'a jamais élucidé pourquoi. Que l'ANRF, effectivement, cesse de paraître. Ce qui est important, hein. Il ne faut pas sous-estimer, imaginer le paysage littéraire français sans la NRF à partir de 1945, c'est un peu comme Paris sans la Tour Eiffel. Voilà, c'est des chocs de cet ordre-là. La NRF reparaîtra en 1951 avec un numéro spécial André Gide, puis régulièrement en 1953 avec ce mot de Mauriac à cette chère vieille tondue. Voilà. Mais Gallimard recommence à fonctionner, et puis toutes les maisons qui sont nées de la guerre, et notamment les éditions Charlot. C'est très important, Charlot, parce que c'est le premier éditeur de Camus, mais à Alger. Donc Charlot commence sur les chapeaux de roue, parce que il va publier toute la première littérature méditerranéenne. Et très vite, il résiste pas. Pourquoi ? Parce que c'est des maisons qui n'ont pas de capital. Et qui, de toute façon, si vous voulez, c'est très bien, il y a un problème de stock de papier. Il ne faut pas oublier que le papier, quand même, est rationné jusqu'en 49. Donc, les éditeurs qui ont pignon sur rue ont leurs habituels approvisionnements, ce que n'ont pas les jeunes maisons. Minuit va bénéficier de la sollicitude des pouvoirs publics. C'est pour ça qu'elles vont bénéficier d'un local qui va être la fameuse librairie fasciste italienne, là où est maintenant le Crédit Lyonnais, à l'angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain, qui est une sorte comme ça de grand manteau, beaucoup trop grand pour cette micro-maison d'édition. Et je me souviens de Jacques Goldschmidt, qui avait travaillé, que j'avais rencontré, qui a travaillé comme chef de fabrication, le problème que ça représentait simplement pour avoir du papier. Et donc, Charlot fait faillite en 48, parce que là, il devient très menaçant dans la mesure où il constitue un catalogue de traductions d'auteurs méditerranéens. Et donc, ça, c'est un vrai projet littéraire alternatif. Et Minuit aurait dû faire faillite en 1948.
Et donc, que deviennent les éditions de Minuit à la Libération et dans les toutes premières années de l'après-guerre ? Quelle orientation, quelle direction entendez donner à la maison Vercors et Pierre de Lescure ? Pierre de Lescure qui arrêtera assez vite, n'est-ce pas ?
Oui, voilà. Pierre de Lescure, il y a une brouille entre Vercors et Pierre de Lescure en 1945. Et on voit bien comment Vercors va aussi reconstruire sa direction des éditions de Minuit, comme sans mentionner le nom de Pierre de Lescure. Ce qui, très honnêtement, n'est peut-être pas tout à fait élégant, quoi. Ça fait partie des choses qui sont historiquement infondées. Voilà. Il y a deux fondateurs des éditions de Minuit clandestines. Maintenant, à la Libération, ça devient, en 1948, l'héritage est terrible parce que Minuit ne trouve pas sa place à la Libération. C'est-à-dire, je suis même pas sûr que le capital des éditions de Minuit ait jamais été souscrit. Tellement le capital symbolique est élevé. Donc personne ne demande de compte à Minuit d'une certaine façon, parce que Minuit a pour elle une histoire qui est une histoire, l'histoire la plus impeccable de toutes les maisons d'édition de la rive gauche parisienne. Mais très vite ça se gâte, parce qu'il y a un livre de fond qui est Le silence de la mer, dont il ne faut pas sous-estimer la qualité littéraire, qui est un livre d'une facture très classique, mais qui a, effectivement, je comprends pourquoi le livre pouvait faire événement en 1942, en apparaissant dans cette présentation extraordinairement soignée, où là, tout d'un coup, on se disait, on va pouvoir refaire de la littérature pure. Voilà, c'est ça qui est intéressant, et ça a d'ailleurs été la réaction de Jean Lescure. Quand on a vu surgir Le silence de la mer, on s'est dit, on va arrêter avec la littérature de propagande, avec la littérature d'agit-prop, et on va pouvoir refaire de la littérature. Là, en 47-48, si vous voulez, Le silence de la mer, c'est un peu court. Et quand on n'a qu'un livre de fond, avec des gens qui ne sont pas du tout Yvonne Parave des Vignes, avec toutes ses qualités et tout ce qu'elle a fait pendant la guerre, comme chef de fabrication, c'est un peu court aussi. Vercors, qui tient absolument à maintenir la direction spirituelle de la maison, qui pourrait se définir comme une forme d'humanisme.
Mais qui n'était quand même pas vraiment favorable à la poursuite des éditions de Minuit. On peut d'ailleurs rappeler que c'était lui qui avait trouvé le nom édition de Minuit, oui. Et qui pensait que ce nom les condamnait à disparaître après la guerre.
Voilà, il ne savait pas, il laisse faire, il veut en même temps avoir une direction spirituelle en considérant qu'il est en dette avec son passé. Et donc, il le doit aux gens qui sont venus chez lui, mais il fait pas le travail de directeur littéraire qui consisterait, donc notamment, il y a une brouille avec André Chanson, où il va pas chercher les manuscrits. Il considère que, voilà, il est Vercors, il a fait les éditions de Minuit pendant la guerre, donc les manuscrits doivent arriver. Bon, c'est pas du tout ce qui se produit. Et il y a en plus une emprise. Peut-être jamais les éditions de Minuit n'ont été à ce point sous l'emprise communiste que entre en gros 46 et 48. Et notamment un très grand livre, qui est le livre de Jacques Panigel, La Rage, qui aurait pu être, à mon avis, le roman de la résistance, déplaît à Aragon, alors que c'est un livre qui est un gros livre, qui est un grand et qui est un gros livre, puisque ça fait 600 pages. Et le livre, là, sera totalement sabordé. Ce qui est une catastrophe pour les éditions de Minuit, parce que ça coûte cher et qu'elles peuvent pas le diffuser.
Anne Simonin, pourquoi dites-vous qu'à ce moment-là, les éditions de Minuit payent une brillante réputation acquise trop rapidement?
Parce que ça, c'est des normalisations dans le champ, les éditions de Minuit. Vercors va prendre des positions très tranchées à la commission d'épuration de l'édition. Il se fait pas que des amis. Et donc, il va y avoir, si vous voulez, vous n'avez pas de capital financier, vous avez un capital symbolique extrêmement fort, mais qui se dévalue aussi très rapidement si vous ne l'entretenez pas. Et il n'y a pas beaucoup de relève. C'est-à-dire que les éditions de Minuit refont ce qu'elles ont fait pendant la guerre. Et puis surtout, il y a un marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir regarder vos livres de compte et vous rendre compte que les éditions de Minuit sont dans une faillite totale, pour ne pas dire définitive, s'il n'y a pas une augmentation de capital.
1946, arrive aux éditions de Minuit comme stagiaire à la fabrication un tout jeune homme qui s'appelle Jérôme Lindon. Durant cette nuit, nous entendrons l'intégralité des entretiens de son avoine nue au micro de Jean-Maurice de Montrémy en 1994, où sera évoquée notamment cette période. Qui est Jérôme Lindon à ce moment-là de son existence?
Un jeune qui cherche un emploi dans le monde de l'édition et qui a déjà eu comme cette génération qui a grandi trop vite d'une certaine façon, parce que avoir 17 ans au maquis, et il racontera justement comment avec une façon de mettre à distance son héroïsme. Je sais pas, avoir 17 ans et avoir déjà participé à des actions physiques où vous avez tué des hommes, pas personnellement peut-être, mais dont vous avez la responsabilité historique, je pense que ça change un tout petit peu votre vision du monde. Donc vous n'avez pas 17 ans, voilà. Et c'est plutôt nisant, j'avais 20 ans et je ne laisserai jamais dire que c'est effectivement le plus bel âge. Il va se retrouver dans une normalisation très rapide, avec donc le fait qu'il vient d'un milieu très bourgeois, mais en même temps un milieu qui exige que les gens travaillent. Pas question de jouer les fils de famille, ce qu'il n'a jamais été en réalité. Donc il va trouver cet emploi, il n'est pas beaucoup payé. Il vit à l'époque chez ses grands-parents, il occupe le logement du chauffeur au-dessus du garage. Donc c'est pas non plus, il n'a jamais vécu dans un luxe fou. Il marche beaucoup, Jérôme Lindon, donc il va à pied. Il va à pied donc du 16e arrondissement sur la rive gauche. Et il apprend auprès de Paul Silva Coronel, qui est le chef de fabrication des éditions de Minuit, il apprend son métier. Et il est vrai que Jérôme Lindon est quelqu'un qui a toujours maîtrisé toute la ligne, toutes les étapes du processus de production du livre. Alors, avec peut-être pas un niveau technique extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui savait faire des livres. Et je pense qu'il y a toujours eu cette façon pragmatique de vouloir, de dire on peut faire des livres qui soient des livres simples, corrects et pas chers. Voilà. Et ça, donc le fait qu'il y ait une grande continuité de la couverture des éditions de Minuit qui a été dessinée par Vercors. C'est Vercors qui invente l'étoile et c'est sur un livre de Jacques Brenner en 1948 qu'apparaît le filet bleu qui est en fait repompé du filet rouge de la NRF. Voilà, la couverture elle bougera pas beaucoup, même s'il y aura une période de Jérôme Lindon où il aime bien les couvertures illustrées. Et moi, j'adore retrouver ça, notamment les grandes réussites françaises où on a des jaquettes illustrées. Ça, c'est le moment où il pense qu'il peut faire du grand public et puis il va se rendre compte que c'est pas une bonne idée parce que ça fonctionne pas. Mais il y a des couvertures illustrées de Minuit qui sont vraiment intéressantes. Je sais pas si vous en montrez.
Oui, et puis il y a aussi il relève des défis de fabrication. Par exemple, pour éditer Les Métamorphoses du vide de Maurice Henry, un livre d'artiste qui s'appelait Le monde plat de Monsieur Graff. Ce sont des livres que l'on montre dans l'exposition qui sont très inattendus et qui provient sans doute du goût qu'avait Jérôme Lindon pour le dessin, la peinture, les beaux-arts, et qu'on ne soupçonne pas, qui a été une découverte pour nous, comme par exemple aussi un ensemble de livres, couvertures illustrées, consacrées à l'architecture, la collection Cahiers Force Vive. Il y a beaucoup plus d'illustrations dans le catalogue Minuit que l'on ne peut...
Absolument. Et quand il fait Les Métamorphoses du vide de Maurice Henry, c'est en 56, je crois que c'est le livre qui a coûté le plus cher à faire aux éditions de Minuit, c'est une merveille. Donc c'est bien qu'on puisse le voir, parce qu'en règle générale, il est confisqué dans des, parce que c'est des livres très très fragiles avec des découpages. Et c'est vrai qu'il y a tout un aspect ludique, qui n'est pas le trait le plus souvent rappelé de Jérôme Lindon, ce qui est dommage parce que c'est un monsieur qui avait beaucoup d'humour.
Anne Renoux, comment l'exposition rend-elle compte du moment où Jérôme Lindon prend la tête des éditions de Minuit ?
Alors, il y a un document qui précisément parle de ce moment-là. Il s'agit des mémoires de guerre du grand résistant Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui s'appelle « 7 fois 7 jours » et qui porte deux dédicaces. La première est très formelle. Sans doute que Emmanuel Dacier de la Vigerie apprend que Jérôme Lindon est sur le point de se marier. Et il écrit « Le souci est compensé par l'hyménée ». On est en juillet 47 et le souci fait évidemment référence à grosses difficultés financières que traverse la maison à ce moment-là et qui conduisent en fait Jérôme Lindon, un peu malgré lui, à solliciter sa famille et sa belle-famille pour renflouer la maison.
Comment un jeune homme, Anne Simonin, arrivé à seulement 21 ans à la fabrication dans une maison comme Minuit, peut-il se retrouver à sa tête 2 ans plus tard ? On sait que la passation de pouvoir ne s'est pas faite sans douleur et sans affrontement. Qu'est-ce qui s'est joué alors entre Vercors et Lindon ? Quels étaient alors les enjeux littéraires, politiques, mais aussi financiers, qui justifiaient les différends et les affrontements de cette période 46-48 et même un peu au-delà ?
Je pense qu'il y a dans la vie des circonstances et une sorte d'enchaînement qui fait que je pense pas du tout que lorsque la famille de Jérôme Lindon et des amis de Jérôme Lindon ont accepté de mettre de l'argent dans les éditions de Minuit, ils pensaient que Jérôme Lindon deviendrait 2 ans plus tard le PDG, le président directeur général de la structure. Je pense que c'est même rigoureusement l'inverse. Pourquoi des familles juives de la haute bourgeoisie décident-elles de soutenir les éditions de Minuit ? On parle toujours du silence de la mer, écrit par Vercors, mais Vercors a écrit pendant la guerre un autre livre, et un livre très important qui s'appelle La Marche à l'étoile. Et La Marche à l'étoile, que Vercors publie en 1943, c'est l'histoire de son aïeul qui, passionné par Victor Hugo, va quitter la Hongrie pour arriver en France pendant la guerre et ne va pas comprendre que la France idéale, pour laquelle il a traversé une partie de l'Europe, n'est plus exactement celle du maréchal Pétain. Et Thomas Muris, qui est le héros de cette histoire, va finir fusillé en pensant jusqu'au bout qu'un maréchal de France, ce qui après tout était le titre du maréchal Pétain, eh bien, ne peut pas faire fusiller un innocent qui pense que la France est la patrie des droits de l'homme. Alors, je vois tout de suite ce qu'on peut me rétorquer, qu'il s'agit encore d'une histoire à l'eau de rose, qui ne présente pas beaucoup d'intérêt. Bien, le seul ennui, c'est que cette histoire, elle est, comme les autres histoires des éditions de Minuit, produite dans des conditions clandestines où des gens risquent leur vie pour faire passer ce type de message. Et il me semble que la gravité vient au moins autant des conditions de production que du texte. Et c'est les éditions de Minuit à la Libération, en 46-47, elles sont sauvées à cause de ce texte. Et avec lui, une vision universelle de la République, qui est pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Quand il va y avoir des négociations avec Vercors, parce qu'une façon de sortir les éditions de Minuit de la passe financière difficile dans laquelle elles se trouvent, consisterait à consolider les droits d'auteur du silence de la mer, c'est-à-dire du seul titre de fond de la maison. Vous avez mentionné Anne Renoux très justement, 7 fois 7 jours, qui est un des grands livres sur la résistance. C'est un petit livre, mais c'est un livre formidable. Les recueils de poèmes de Paul Éluard. Mais enfin, c'est pas ça qui fait vivre une maison qui emploie 10 personnes. C'est juste pas concevable. Et Vercors va refuser la consolidation de ses droits d'auteur, sans quoi il avait parfaitement raison. Enfin, raison ou pas, j'en sais rien. Mais enfin, il le refuse. Et en revanche, va demander un droit de veto. Un droit de veto sur la production des éditions de Minuit en considérant que il a, vous avez signalé que c'était Vercors qui avait trouvé le titre des éditions de minuit, ce qui est vrai, qu'il a porté des éditions de minuit pendant la guerre, et qu'il tient, en tant qu'auteur phare de cette maison, qui est devenue une marque, mais qui reste pour lui une maison, soit sous son contrôle.
Ce droit de veto qui d'ailleurs que Pierre de Lescure contestait lui aussi.
Oui, alors il y a eu, bon, puis vous savez, le droit de veto dans l'histoire de France, ça s'est toujours mal passé, donc ça n'a jamais été une bonne idée, et c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que c'est une sorte de forme de censure interne, qui est une drôle de chose. Ben, alors ça se passe mal parce que, ben, je crois que c'est la première fois que Jérôme Lindon dit non. Mais Jérôme Lindon dit non et racontait toujours l'histoire en disant « quand je suis rentré chez moi pour dire que j'avais dit non, c'était très moyen ». Parce qu'il se retrouvait effectivement à l'âge de 22 ans à la tête d'une maison d'édition en faillite qu'il fallait renflouer. Et là se joue quelque chose qui est aussi très important, qui est l'intervention du père de Jérôme Lindon, qui est Raymond Lindon, avocat puis avocat général à la Cour de cassation. Qui sera un avocat qui prendra des positions très dures lors de l'épuration, puisque c'est lui qui requérera la peine de mort contre Henri Béraud, en particulier. Et là, il va y avoir un soutien extraordinaire de la part de Raymond Lindon. Alors, peut-être qu'il n'est pas content, mais il y a une sorte de culture dans le côté ben, « on va faire avec ». Et parce qu'il va falloir quand même gérer, d'un point de vue juridique, le refus qui est opposé à Vercors, qui veut reprendre la marque des éditions de minuit. Ça ne sera pas possible. Mais ensuite, cette marque, l'acheter, ça suffira pas. Et je pense que Jérôme Lindon a toujours su ça. Et que cette marque, il va la reconquérir et véritablement se la réapproprier au moment de la guerre d'Algérie. Et je pense que son combat pendant la guerre d'Algérie, c'est de considérer que voilà, il a besoin non pas de faire une guerre parce que d'abord il est croix de guerre, hein, Jérôme Lindon. Il faut pas il a une distinction importante suite à un épisode de prise d'un train allemand à Mazamet. Donc il a pas besoin il a pas besoin d'être rassuré sur son identité de d'homme ayant servi la France pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas il va racheter symboliquement le titre édition de minuit en 1959, en 58-59, avec la question et l'entrée dans la lutte contre la guerre d'Algérie.
Et quels sont les titres publiés dans les premières années de l'ère Lindon aux éditions de minuit, Anne Renoux?
Eh bien, des ouvrages, beaucoup d'ouvrages qui font polémique, qui sont publié dans la collection qu'il crée, la collection Documents qu'il crée en 49 pour dédier aux témoignages. Il y a par exemple le livre d'Inge Scholl qui raconte l'histoire du réseau La Rose Blanche, où sa sœur et son frère Sophie Ernst Scholl sont morts pour lutter contre le nazisme à Munich, et qui donne une autre image de l'Allemagne pendant la guerre. Et c'est un livre qui paraît en 1950 et une partie du public n'est pas prête à entendre ce type
de témoignages.
Il y a également, bien sûr, la lettre au directeur de la résistance de Jean Paulhan, qui fait scandale puisqu'elle émane d'un grand résistant et qui critique les dérives d'une partie de la résistance au moment de l'épuration. Et texte qui avait été refusé par Gallimard et par d'autres éditeurs et que Jérôme Lindon accepte de publier en 1952.
Il y a l'ABC de Bataille aussi, pareil, pour reprendre ce que disait Anne Renoux sur le scandale, parce que c'est un prêtre qui a parlé sous la torture. Et puis il y a une chose qui est mal connue, qui est le soutien apporté par les éditions de minuit aux prêtres ouvriers. Le premier volume de la collection Documents, c'est l'abbé Boulier, un prêtre prend position, et un des seuls best-sellers, enfin, qui se vendent un peu, c'est le livre des prêtres ouvriers. Et ça aura une vraie incidence sociale. C'est aussi Daniel Guérin. Et puis, il y a aussi là, ce livre de Géjean Barre qui revient sur la résistance. Donc, il y aurait une relecture un peu polémique des années de résistance en essayant de les démoraliser. Pas de les amoraliser, mais de les démoraliser. Ce qui se passe pas bien du tout avec la génération fondatrice, ça c'est clair. Donc tous ces titres, l'ABC de Bataille, même enfin la culpabilité allemande de Jaspers, on voit bien qu'il y a une façon de réécrire de façon plus objective l'histoire de la résistance en ne passant pas par le roman. Voilà, pour ça, c'est déjà une chose. Donc, en lançant des essais, ce qui est aussi quelque chose de tout à fait intéressant dans l'évolution de la forme sur le rapport et la question du témoignage est absolument essentielle. Donc, il y a un déplacement de la focale. Mais ça reste quand même à bas bruit, d'une certaine façon, par rapport à ce qui va se produire par la suite.
Mais à chaque fois, Jérôme Lindon se bat pour ses auteurs et ses livres. Par exemple, Les prêtres ouvriers, en 1954, le livre était déjà bien constitué au seuil. Et la condamnation du pape fait que le seuil renonce à la publication. Et Jérôme Lindon, lui, ne renonce pas. Pareil pour l'ABC, les communistes titrent dans leur hebdomadaire Les Lettres françaises un livre qui déshonore ses éditeurs. Et Jérôme Lindon intente un procès en diffamation, un procès qu'il gagne l'année suivante.
Nous entendrons une émission de 1951 avec Georges Lambrix sur la revue 84, une revue que prendront sous leur aile les éditions de Minuit. Pourquoi était-il si important alors pour un éditeur de s'adjoindre une revue littéraire, Anne Simonin ?
Modèle Gallimard. On n'envisage pas de pas fonctionner avec sur le modèle de la Nouvelle Revue Française. Et donc, un éditeur, c'est le moment de l'explosion du nombre des revues. Et c'est une façon très classique d'attirer une nouvelle génération d'auteurs. Et c'est là où, justement, 84, qui sera une drôle de revue, donc il y a Georges Lambrix, il y a Henri Thomas, c'est un groupe qui a du mal à trouver une véritable ligne littéraire, si tant est que trouver une ligne les intéresse beaucoup. Mais il est certain qu'il y a une sorte d'investissement des éditions de Minuit dans la littérature, et qu'elle se fait par le biais de cette revue, qui, je trouve, là, retrouve actuellement une véritable légitimité littéraire. Le but inavouable de 84, c'était évidemment de faire rentrer Minuit dans le giron Gallimard. Parce qu'il va y avoir un certain nombre de rachats qui vont être faits par Gallimard, que Gallimard est, selon la formule de Philippe Solers, la banque centrale de la littérature française, et que 84, c'était une façon, et d'ailleurs Pollan essaiera de faire racheter 84 par Gallimard, en se disant que c'était une bonne entrée pour récupérer à terme les éditions de Minuit. Et je rejoins tout à fait ce que disait Anne Renoux, je crois que toujours... Et tout le temps, Jérôme Lindon s'est battu et n'a jamais envisagé de céder sur quoi que ce soit. Et il y aura une lutte homérique, la deuxième lutte homérique des éditions de Minuit. C'est le bras de fer avec Gallimard en 1953, quand il y a republication et où là, les éditions de Minuit vont vraiment mal. Et il y a un risque de rachat et il va y avoir une lutte avec des textes, un échange interposé de textes de Desnos et de textes d'Éluard. Et Jérôme Lindon va faire cette chose absolument inouïe, va faire saisir un exemplaire des éditions Gallimard, un exemplaire des Poésies d'Éluard, en considérant qu'on a oublié de demander l'autorisation des éditions de Minuit sur le poème Liberté, paru en 1942.
Anne Renoux et Anne Simonin, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première année de cette nuit des éditions de Minuit. Dans un instant, l'origine des éditions de Minuit, Vercors et Jean Lescure, le 10 novembre 1946, sur les ondes de la radiodiffusion française. Puis, numéro spécial 84, nouvelle revue littéraire, une émission de Jacques Peuchemar en 1951 sur la radiodiffusion télévision française. Le premier temps de la voix nue de Jérôme Lindon, au micro de Jean-Maurice de Montrémy en 1994. Une lecture publique de Molloy de Beckett par Pierre Chabert en 1949. Puis le deuxième temps de la voix nue de Jérôme Lindon en 1994. Et nous nous retrouverons dans plus de 2h30 pour la deuxième partie de notre entretien. Elle s'ouvrira sur ce qui est sans aucun doute le moment clé de l'histoire des éditions de Minuit de l'après-guerre, c'est-à-dire la rencontre, l'arrivée de Samuel Beckett dans la maison. À tout à l'heure.